C'est le premier anniversaire en France de la PMA pour toutes. Il y a un an, le Parlement ouvrait la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, y compris les couples de lesbiennes. Une vieille revendication de la communauté LGBT, même si on s'en aperçoit un an après, ce sont en majorité des femmes célibataires qui profitent de la PMA. Bonjour Dominique Mel.
Bonjour.
Vous êtes sociologue au CNRS, spécialiste de bioéthique, des questions de famille, et vous avez écrit le livre « La PMA déconfiner la révision de la loi de bioéthique en 2020 ». C'est donc la première surprise de ce premier bilan de la PMA. Il y a finalement 53% de femmes célibataires contre 47% de couples de lesbiennes qui ont commencé les démarches. Un peu comme le PACS, en fait, hein, il y a 20 ans, qui avait d'abord profité aux hétéros. Comment vous expliquez ce phénomène ?
Écoutez, je vais vous dire d'abord que je ne suis absolument pas étonnée. Il faut dire d'abord qu'il y a quand même la moitié des demandes qui proviennent du mouvement qui s'était développé depuis un certain temps pour l'accès des couples de femmes. Donc il y en a quand même la moitié des nouvelles demandes qui proviennent de ce qui était déjà une revendication de la société. Et je ne suis pas étonnée de la demande de femmes célibataires. Parce que d'abord, il faut dire que la maternité qu'on appelle maintenant maternité solo existe depuis toujours, mais par des moyens naturels, sexuels, internet, copains, sorties, surprises à un compagnon, donc hors PMA. Et à partir du moment où c'est ouvert à la PMA, il est assez logique qu'un certain nombre de ces femmes qui souhaitent avoir un enfant, même si elles n'ont pas de conjoint, fassent appel à la procréation médicalement assistée au lieu de bricoler ou de faire des trucs à la limite de la connaissance même de leurs entourages.
D'où donc, le succès de cette PMA pour toutes. On va citer les chiffres. Le gouvernement, pour la première année, avait tablé sur 3000 demandes. Finalement, on en est à 12 000 demandes de première consultation. Est-ce que c'est le signe que la société est toujours en avance sur les politiques qui sont toujours plus frileux ?
Oui, on peut dire que la société est en avance. On peut dire que aussi les centres de procréation médicalement assistée, le corps médical, les députés et même le comité national d'éthique n'étaient pas d'un enthousiasme fou pour l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux mères célibataires. Ils s'étaient résignés à accueillir des couples de femmes avec l'idée que à défaut qu'il y ait un conjoint, il y avait au moins deux parents à l'horizon de ses naissances, tandis que l'idée qu'il y ait un seul parent, et notamment l'absence de père, qui a été un des thèmes de critique majeure de la Manif pour tous, l'idée qu'il y ait un seul parent rebutait un certain nombre de psychologues, la conscience d'un certain nombre de personnes, et c'est vrai que ce n'est pas non plus totalement évident de s'engager dans une procréation toute seule. Donc il y avait un tabou sur cette question. Il n'y a pas eu les femmes souvent qui étaient mères célibataires volontaires, hein, pas par accident, mais qui avaient voulu être mères célibataires avant que la PMA leur soit ouverte. Souvent, c'était même pas connu de leur famille. Ça restait non dit, assez clandestin, assez peu revendiqué. Et il y avait d'ailleurs pas d'association jusqu'à très récemment, 2 ans avant le vote de la loi, qui revendiquait cet accès des femmes seules à la PMA. Donc c'était vraiment encore un sujet de société enfoui, caché, non dit, intime, privé. Et pas politique.
Et que cette loi a donc permis de révéler le succès de la PMA. Est-ce qu'il y a assez de donneurs de spermatozoïdes pour y répondre ?
Alors ça c'est une question qui est intéressante, puisque notamment les adversaires ont tout de suite dit qu'il était déjà très difficile, il y avait des listes d'attente longues, hein, qui pouvaient aller jusqu'à 1 an et demi pour les procréations médicalement assistée dans un régime de parents homosexuels infertiles, et que donc des demandes nouvelles allaient faire encore plus, pas imploser, mais rendre difficile et qu'on était menacé par une pénurie de dons. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que les dons ont plutôt un peu augmenté après le vote de la loi et n'ont pas diminué. Ça ne suffit pas à combler les besoins, mais ils ont un peu augmenté
Est-ce qu'il faut
pour.
justement, c'est une question qui a été avancée, rétribuer les donneurs de spermatozoïdes?
Écoutez, moi, je pense que ça n'est pas dans la tradition du système médical français. Et donc, il est absolument impossible de savoir si. Bon, il y a des systèmes dans lesquels le don d'ovocytes, le don de sperme sont rémunérés. Est-ce que c'est pour ça qu'ils sont plus facilement. Est-ce que ces dons sont plus facilement d'accès? C'est difficile à dire. Si on prend l'Espagne, par exemple, il y a une tradition. Les dons sont rémunérés, mais il y a une tradition de dons, y compris d'organes, qui est très très forte. Donc, il y a aussi une dimension psychologique
Et
et
culturel aussi
et
à ce
culturelle.
sujet.
Voilà.
Merci beaucoup, Dominique Mel, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes sociologue au CNRS et je rappelle le titre du livre que vous avez écrit, La PMA déconfinée. Il est 13h41 à Paris.